This podcast is brought to you in part by Lifeproof, makers of action-ready phone cases designed to let you live full-time. Whether it's braving the surf or thriving in the dirt, Lifeproof allows you to live full-time. Lifeproof cases protect one of your most valuable tools, your phone. From the waterproof Free, the Agile Next, the streamlined Slam or the all-new Flip, Lifeproof cases let you do what you do without hesitation. To start living full-time, go to lifeproof.co.uk/lifeproof15 and save 15% on your Lifeproof case.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est la façon dont on a joué ce match-là, j'ai pas aimé, manque d'impuissance.
Ça m'arrive de le regarder, ça m'arrive d'aller au Parc Saint-Germain.
Tous les matchs, pour moi, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a chaque vérité à son match.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Gilbert Bribois.
Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là, Pierre Ducrot est là, Bordeaux au programme tout de suite, on reprend le débat avec Florian Brunet, mais d'abord un point sur le match Atlético Madrid-Barça. Aurélien Tirsin.
La deuxième mi-temps a repris depuis 25 secondes, toujours 0-0. Gérard Piqué qui avait touché la barre transversale à la toute fin de la première période, le Barça qui reprend un tout petit peu les choses en main, et Antoine Griezmann qui ne s'est toujours pas créé d'occasion, il est assez discret le français, mais comme Messi, comme Suarez, toujours 0-0 au Wanda Metropolitano.
Sur le hashtag RMC Live, Reg me dit il faudrait mettre Dugarry et Le Capelin à la tête des Girondins, au moins on rigolerait pour de bon, dit-il. Bon, c'est une blague. Florian Brunet, toujours avec nous, porte-parole des Ultramarines. Florian, est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez M6?
Non, la question ne se passe pas comme ça. Il y a actuellement de sujets aujourd'hui pour penser au présent et surtout pour penser à l'avenir proche. Parce que, comme je vous ai dit, visiblement, King Street veut vendre très très vite. Donc déjà, il faut sauver le présent. Il y a une situation à l'intérieur des Girondins qui est très très grave, que ce soit au niveau des 200 salariés ou que ce soit au niveau de la tribune populaire. Des tensions qui sont très très fortes. Donc il ne faudrait pas que ça aille trop loin. Il est clair que Longue Épée et tous les gens en place, tu disais que beaucoup de gens étaient mis en place par GACP, oui, mais pas que, aussi King Street par l'intermédiaire de Longue Épée qui a recruté Thiodé et qui a recruté également tout un tas de personnes à des salaires très corrects, anciens supporters de Marseille ou de Paris, énormément de gens ont été recrutés, mais tous les anciens plus de 100 salariés qui travaillent depuis très longtemps ici.
Attends, là, tu donnes beaucoup d'infos, mais il faut qu'on s'arrête sur certains trucs. Donc Longue Épée et Thiodé sont les hommes de King Street. Quand tu parles d'anciens supporters de Marseille et de Paris, c'est quoi
recrutement dans tous les sens. Ce que je veux dire par là, c'est que on a enlevé l'âme du club, c'est-à-dire
oui, c'est pas des gens qui sont des Girondins, quoi, des Bordelais.
Ne serait-ce que Longue Épée, il a rien de Bordelais, il s'en fout.
Ça gêne des salariés qui disent attends, je bois le café le matin avec un supporteur de l'OM, quoi.
Bah ouais, donc
il y a quand même c'est quand même un problème.
Moi, je peux comprendre que dans les clubs, ce genre de choses, ça devrait pas, ce genre de choses ne devrait pas exister dans les clubs.
Là, messieurs, vous êtes des doux rêveurs, parce que dans tous les clubs en France, t'as pas que des gens du rail de chaque club et du travail.
C'est pas un problème majeur s'il n'y avait que
mais moi, dans
c'est
les bureaux, je recrute pas, je suis président d'un club. Dans un club, je recrute pas un mec qui dit qu'il est supporter d'un autre club. Mais c'est délirant,
mais n'importe quoi. Ça n'a rien à voir. Mais non, t'es pas sur le terrain et dans le vestiaire, là. T'es dans un service marketing, si le mec est compétent.
Encore plus, si le mec en marketing, il est pas capable de connaître l'histoire du club.
Mais qui te dit que le mec, parce qu'il est pas né à Bordeaux et qu'il a pas supporté Bordeaux pendant 45 ans de sa vie, il ne peut pas connaître le club et faire son métier dans le marketing? Mais tu crois que tous ceux qui travaillent dans le marketing du PSG sont supporters du PSG?
Je trouve que
ailleurs pareil.
C'est une erreur. Le mec qui va s'occuper de gérer les maillots, qui va s'occuper de vendre les produits dérivés, il connaît.
Mais
il est supporter de l'OM.
Rien à voir. Les clubs sont des sociétés maintenant. C'est
plus. Oui, mais quand même.
Arrêtez. On vient de parler au début de l'after que même les joueurs ne pouvaient plus aujourd'hui dans un club. On parle des joueurs. Alors imagine le service marketing.
Florian,
laisse-moi juste donner mon avis, s'il te plaît. Écoute. Encore une fois, comme a dit Gilbert, je trouve qu'il est bien mon jingle. Parce que moi, je comprends ce que veut dire Daniel, mais en même temps, on peut pas non plus avoir que des gens qui sont supporters. Non,
mais
je suis d'accord.
C'est un détail dans l'histoire actuelle. Il nous parle de problèmes graves. Je retire ce que j'ai dit. Je m'en fous, c'est une connerie. On va parler d'un truc grave, on va pas s'arrêter sur le mec qui est supporter d'un groupe.
Le club est en péril. Alors laisse-moi donner mon avis. Donc. Moi, je comprends ce que veut dire Florian et ce que veut dire Daniel, dans le sens où, Florian, pourquoi je te parle de cet exemple que tu as donné, c'est que tu dis qu'il faut des gens qui ont quand même l'âme du club. Est-ce que ce que Florian veut dire aussi? Maintenant, tu parles des anciens, c'est-à-dire des anciennes personnes qui sont salariées, j'ai bien compris, ils sont plus d'une centaine, parce que je vous écoute depuis 10 minutes, mais Donc j'ai bien compris que les anciens voient un peu d'un mauvais œil que de nouvelles personnes qui n'ont pas forcément les valeurs des Girondins de Bordeaux historiques rentrent dans le club à différentes positions, que ce soit au marketing ou ailleurs. Laisse-moi finir. Je sais que
c'est pas important, Kevin.
Ok, si c'est moins important. Ok, maintenant il y a aussi le point de vue, le point de vue de Pierre qui disait que dans un club qui est quand même une entreprise où il y a deux nouveaux actionnaires, c'est pas forcément les anciens qui ont raison non plus. Parce que les nouveaux actionnaires, ils ont aussi le droit d'apporter leurs pattes. Et s'ils apportent leurs pattes, ça veut dire ramener un tel ou un tel. Du moment que la personne est compétente, laisse-moi finir. Moment que la personne est compétente, moi, je m'en fiche qu'elle soit pour tel
club. Là, en l'occurrence, ils sont pas compétents. C'est ça le problème.
L'intérêt de son entreprise d'abord. Voilà ce que je voulais dire.
Au cœur du problème, parce que c'est pas ça. Aujourd'hui,
ça en fait partie.
Aujourd'hui, savoir si, oui, vas-y, Farah.
Ouais, merci. Le cœur du problème, c'est qu'il y a un château du Gaillan qui se porte très mal au niveau de son ambiance et de son état d'esprit. Les salariés nous le remontent tous les jours. Ça se passe très mal à tous les niveaux. Au niveau du virage sud, ça se passe très mal aussi. Il y a des énormes tensions. Nous, on espère qu'une chose, c'est que ça ne dérape pas. Mais les provocations se multiplient des deux côtés. Rien n'est fait pour calmer l'ambiance. Nous, on est rentré dans un rapport de force qui est extrêmement dangereux. Nous, aujourd'hui, que notre liberté de parole soit contrôlée, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Longue épée ne peut nous interdire de banderole. Il n'y a aucune banderole insultante. Nous, on défend notre club. À l'intérieur d'un débat. Il n'y a aucune raison qui contrôle nos banderoles. Également, il y a tout un discours qui a été distillé depuis quelques mois de l'affaire de la billetterie. L'affaire de la billetterie, ça continue. Ça continue encore et encore. Bon, ça, c'est le présent. C'est l'environnement qui va très très mal. Mais cet environnement, de toute façon, il est destiné à ne pas durer longtemps. Puisque je viens de vous le dire, King Street veut vendre au plus vite. Donc l'enjeu, il n'est déjà plus là. On est déjà dans l'après. Et moi, si vous voulez, je suis là pour interpeller des gens qui, il y a un an, nous disaient, vous inquiétez pas, ces gens-là sont sérieux, ces gens-là vont porter haut le club.
Voilà, ça, c'est le vrai sujet, ça. Les ventes de clubs et à qui on a vendu les clubs, c'est très sérieux, ça.
Oui, je voudrais interpeller Nicolas Taverneau, en qui j'ai quand même beaucoup d'affection, qui nous disait il y a un an, avec toute la conviction, vous inquiétez pas, ces gens-là sont sérieux, ils ont un projet qui va porter haut le couleur du club. Nicolas Taverneau, je vous regarde droit dans les yeux, vous croyez encore ça? Nicolas Florian, Alain Juppé, qui politiquement nous disait, parce que Bordeaux est un vrai patrimoine de la ville de Bordeaux, les Girondins de Bordeaux sont un vrai patrimoine, ça fait partie de l'ADN de la ville, on parle du vin de Bordeaux, mais on parle des Girondins de Bordeaux, c'est extrêmement...
La mairie dit quoi, hein?
Nicolas Florian et Alain Juppé...
Non, mais l'année dernière, tout le monde était confiant et tout le monde disait
Donc moi, je mets tout le monde devant ses responsabilités. Nicolas Taverneau, Nicolas Florian, et je leur demande simplement une chose. Mettez en route votre carnet d'adresse. C'est pas possible que les Girondins de Bordeaux n'attirent pas quelqu'un. Quelqu'un de sérieux reprenne ce club, mette 80 ou 100 millions d'euros sur la table et le fasse vivre sérieusement avec de l'ambition. Alors, on doit être capable. Faisons tous marcher notre carnet d'adresse. Alors, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est là.
Alors Florian, tant que ça a pris aussi à M6 pour vendre le club.
Philippe Fargeon, il n'y a pas très longtemps, a parlé des Girondins de Bordeaux. Il faut défendre le virage sud. Le virage sud fait partie du club aujourd'hui. Le virage sud, c'est une fierté du club. Il faut défendre le virage sud.
Alors, Florian,
il faut défendre les salariés.
Je comprends que tu sois. T'as plein d'infos, t'as plein d'arguments, t'es enflammé et tout, mais il faut qu'on puisse s'exprimer aussi quand même.
Il faut se battre pour reconstruire ce club avec son âme et conserver son âme qui est formidable, qui est une véritable âme populaire.
Voilà, ça, nous sommes tous d'accord.
Florian, alors, dans ce que tu dis, il y a certains problèmes. D'abord, il faut s'arrêter à la vente. La vente, Taverneau pouvait effectivement, je veux pas le défendre, c'est juste pour essayer de dire les choses. Des choses qu'on croit et qui en fait ne doivent pas être crues comme ça. Lui, quand il vend, qu'il veuille ou qu'il veuille pas, à un moment il y a des actionnaires derrière. Et quand la vente.
Mais entièrement, Daniel. Et quand. On le sait, ça.
Bah, oui, c'est pour ça. Mais il faut. Oui. En fait, c'est pour tout préciser. Mais pour.
Mais je te parle de la relation humaine. Nicolas,
oui, bien sûr.
Nicolas est un
mais lui, à un moment, quand.
Et il y a un an, il nous disait droit dans les yeux.
Oui, mais bien sûr. Mais non, à un moment, quand les actionnaires ont dit. À un moment, quand les actionnaires ont dit, on accepte parce que le prix d'achat.
Il nous dit, OK, il n'est pas viable, j'ai pas le choix. Mais il nous dit pas il est viable.
Mais ça d'accord, je suis d'accord.
Peut-être qu'il le pensait.
Je suis d'accord, Florian. C'est pour expliquer les choses. Je suis d'accord avec toi.
Mais
Florian, deux secondes. On essaye d'expliquer les choses. Peut-être si c'est pour dire qu'il t'a regardé dans les yeux et qu'il t'a menti, je suis d'accord avec toi. Mais à la limite, encore une fois, il faut concrètement dire comment ça fonctionne.
Et puis il y a des infos à donner en plus.
Les actionnaires ont dit on vend parce que le prix de vente, le prix d'achat de Bordeaux était exorbitant par rapport à sa valeur. Si tu compares à d'autres ventes qui ont été faites. Donc forcément les actionnaires ils disent on vend. Ensuite quand tu parles des politiques, là encore, c'est une aberration qu'on a en France de croire que le politique doit se mêler de tout. Là, alors.
Politiquement, Daniel.
Alors, tu vas me dire, ils nous ont pris pour des cons en nous racontant. Ouais, mais en gros, il faut pas vouloir être pris pour un con aussi. En aucun cas, de toute façon, même si vous y avez cru et tout, il fallait croire. Que...
Mais nous, on n'y a jamais cru, Daniel.
Bon, bah, tout va bien, Florent. Mais il fallait pas croire qu'eux allaient dire oui ou non pour l'actionnaire, on va les recevoir à la mairie, on va ceci, cela. C'est du pipeau, tout ça. C'est du pipeau.
Alors, Florent,
alors que tu as raison, Daniel, Florian, mine, quelque part, il faudrait, parce que c'est un élément du patrimoine de la ville, que de temps en temps, bah, en l'occurrence, les pouvoirs publics de la ville se disent, faut faire attention à qui va gérer notre club, parce que si notre club, on est dans la merde.
Top, 2-3 infos, j'aimerais que Florian nous confirme ça. Est-ce que, parce qu'on a souvent un peu brocardé, moqué un petit peu Stéphane Martin, le prédécesseur, qui sortait un peu de nulle part, il bossait dans la banque, il est arrivé là, c'était un fan des Girondins, lui, c'était un vrai fan des Girondins, en l'occurrence. Enfin,
on s'en fout.
Attends, quand même. Il a quand même mis en place des trucs concrets, notamment avec vous, les ultras sur les stadiers, je crois, des formations. De ces choses comme ça. Et Longuepé, lui, il a stoppé, ça il faut en dire un mot, Florian, si tu veux bien. Longuepé, il a stoppé quelques mises en place qu'avait fait Martin avant de partir.
Longuepé ne conçoit pas qu'il y ait une tribune ultra. C'est quelque chose qui le dépasse. Longuepé,
donc il l'a déconstruit alors que Martin bossait avec vous.
Il veut les remplacer par une sécurité privée. Il ne comprend pas qu'une tribune populaire puisse s'exprimer. Nous, pour lui, on est juste des ambianceurs. On n'a pas à avoir un partenariat avec les stadiers. On n'a pas à avoir de liberté d'expression. C'est quelque chose qui le dépasse. Il n'a pas de conception. Il connaît pas le football, Frédéric Longuepé, avec tout le respect qu'on peut.
Oui, il vient de l'athlète d'ailleurs, Longuepé, et pas de l'escrime, comme son nom l'indique.
Mais il ne connaît pas du tout le football. Il ne connaît pas du tout l'environnement.
Dis-moi, au-dessus de lui aujourd'hui, il y a qui?
Personne.
Au-dessus de Longuepé aujourd'hui, il y a qui? Est-ce qu'il y a un homme là, un gars?
Personne, parce que c'est les mecs à
New York. La personne que je vous ai citée tout à l'heure.
Ah, Monsieur Herman.
Moi aussi, je l'interpelle, Daniel Herman. Je l'interpelle aussi. Il faut que si King Street veut vendre rapidement, que les choses se fassent vite et intelligemment. Mais là aussi, j'interpelle aussi les gens qui seront intéressés. Il faut qu'ils comprennent une chose. Le football doit être central. Le football doit être central. Il ne faut pas imaginer qu'on peut faire du développement commercial en occultant le terrain. Et on ne peut pas faire du développement commercial aussi en occultant le virage sud. C'est une hérésie. Le virage sud est particulièrement à Bordeaux.
Il vous faut un Radcliffe.
Doit être central au développement commercial.
Non,
le repreneur, il ne doit pas prendre le virage sud de haut comme l'a fait Longuepé pendant un an.
Ouais.
Ce n'est pas possible.
Oui,
ce
mais
n'est pas
Florian.
L'histoire des
alors, Florian,
la question
Daniel,
qui est posée aujourd'hui.
Et ensuite, on va accueillir Axel.
Vraiment, il faut le cœur du problème, il est pour l'instant économique principalement. Ça pose la question de la vente des clubs français qui a eu lieu sur les dernières années.
Bordeaux,
on est allé
Nice,
chercher des investisseurs
Marseille.
Étrangers. Qu'on a vu ça, et je dois dire que quand on m'en a parlé la première fois, je peux pas m'exclure du mouvement, de ce mouvement un petit peu enthousiaste qu'il y a eu autour de ces ventes, en disant bon bah on va voir ce que ces gens-là vont faire et tout ça. Et puis au fond, ça dit quoi? Ça dit que tu n'as personne en France qui veut investir dans les clubs de foot, et il faut demander pourquoi. Pourquoi on ne veut pas venir au foot? Pourquoi pas d'investisseurs français se lancent là-dedans? Ça, c'est des vraies questions. Les ventes de clubs qui ont été faites à ces investisseurs étrangers, qu'est-ce qu'elles donnent?
Enfin, il y en a quelques-uns qui le font. Hein. Je pense à Pinot Arène, par exemple.
Oui, mais ça fait longtemps.
C'est un investisseur français.
C'est une exception. C'est terminé, tout ça. Ah, mais en fait, tu n'as personne de nouveau qui veut venir dans le foot aujourd'hui. C'est ça. Il faut savoir pourquoi. Il faut s'interroger sur le niveau de notre foot, son attractivité, son image. Et les étrangers qui sont venus, la plupart, on sait très bien qu'ils ne savent rien du foot et qu'ils s'en foutent. Ils sont venus post autour du mouvement France championne du monde.
Il y en a qui sont venus avec des objectifs bien précis. À Monaco, ils sont venus pour faire de la thune.
Et ben,
on le sait.
Mais partout, ils sont venus pour faire de la thune.
Ils sont tous venus pour ça.
Moi, j'attends.
Ils sont tous venus pour ça.
J'attends de voir ce qui va se passer à Nice.
Pour autre chose.
Excusez-moi. Permettez-moi quand même. Il y a certains clubs. On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer à Nice avec Radcliffe? Peut-être que ça va marcher.
Ça pose question. Il faudra attendre le mercato de l'été prochain pour voir. Mais aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de gens à Nice qui se posent des questions. On nous vend des grands projets alors que la plupart, pour l'instant, sont là pour faire du trading de joueurs. Pourquoi? Parce que les mecs sont pas cons et ont compris que la France est le premier exportateur ou le deuxième exportateur de joueurs, qu'il y a des marges qui sont faites sur les joueurs, que ça induit tout un marché souterrain de formation, de joueurs achetés 1, vendus 10, que les mecs sont venus pour investir et que les projets sportifs n'existent plus dans notre football.
C'est clair.
Ça, il faut ouvrir les yeux là-dessus. La Ligue a eu un mal fou à trouver des investisseurs. Elle est allée chercher McCourt à Marseille. elle a tout supervisé, elle a essayé, elle est dans son bon droit parce qu'elle veut relancer le foot en France. Parce que si, même s'il n'y avait pas eu ces mecs-là, mais on serait presque dans une situation encore plus catastrophique. Déjà que notre football est dans une situation catastrophique.
La vie de Pierre et Kevin.
Ça serait pire parce que personne ne veut venir.
J'ai une question.
Personne ne veut venir.
Ceux qui investissent dans les autres pays, notamment l'Angleterre, puisque beaucoup de choses se passent là-bas, est-ce qu'ils viennent pour d'autres raisons? Est-ce qu'ils viennent parce qu'ils sont amoureux de, je sais pas, de.
On pourrait oui, mais ils bénéficient d'un écosystème. Économique qui est autrement vertueux.
Il bénéficie aussi de conditions quand tu investis en Angleterre un peu plus favorable que quand tu investis en France aussi,
en fait,
peut-être.
En Angleterre, ce qui s'est passé,
peut-être ça aussi.
En Angleterre, les premiers investisseurs, ils sont allés. D'abord, le système est complètement différent. Il y a une véritable compétition sportive et les mecs sont allés à City, à United et tout. Et d'abord, il y a eu énormément de problèmes aussi à United. Mais d'abord,
par exemple,
l'écosystème, comme dit Gilbert, est complètement différent. Les nouveaux investisseurs ne pouvaient plus acheter de clubs anglais parce qu'ils coûtaient trop cher. Pour un club, on va dire que t'achetais 200, même si maintenant c'est carrément dans l'ordre des milliards, on va dire 200 millions en
Manchester City, valorisé plus d'un milliard.
Tu l'achètes pour 20.
Mais il a lâché aussi beaucoup d'argent depuis qu'il l'a acheté.
Donc les mecs ont commencé.
City n'est pas forcément le bon exemple. City, c'est plus le PSG, donc c'est pas forcément l'exemple qu'il faut prendre.
Comme ils ne pouvaient plus acheter là-bas, ils sont venus acheter chez nous. Mais chez nous, l'objectif, il a été uniquement centré sur les joueurs formés que tu revends sur les autres marchés.
Bien sûr.
Il n'y a pas de volonté sportive.
Mais tu penses très clairement, Monaco, oublions City ou Chelsea ou très clairement,
je pense United, à Liverpool, partout.
Mais United, tu penses qu'ils ont racheté le club pour gagner quelque chose là-bas?
S'il vous plaît, laissez Kevin également s'exprimer.
Ça pose des problèmes à United.
Mais bien sûr, mais je pense que les deux tiers d'investisseurs en Angleterre sont venus aussi pour faire de l'argent.
Déjà, quand Florian parle, c'est lui le vrai football. Le vrai football, c'est lui. On voit qu'il est ému, on voit qu'il a des arguments et il a sûrement raison sur beaucoup de sujets qu'il maîtrise plus que nous puisqu'il vit dans ce club depuis bien longtemps. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'investisseur dans le football, ce mot n'a jamais aussi bien porté son nom. Lorsque je fais un investissement, c'est pour gagner de l'argent. C'est pas pour gagner de l'histoire, c'est pas pour gagner du plaisir, c'est pas pour donner du plaisir aux supporters, au virage sud, au virage nord. Eux, ils s'en fichent. Donc M6 avait besoin de vendre et a eu, arrivé à la fin d'une histoire avec les Girondins de Bordeaux, ont souhaité choisir un repreneur. Ils ont trouvé celui qui leur a offert le plus d'argent, encore une fois. Et aujourd'hui, malheureusement pour le supporter qui, je l'entends, est la victime de ça, mais c'est pas qu'à Bordeaux. Aujourd'hui, bien sûr, dans les clubs, les derniers garants des institutions, ce sont peut-être les salariés et bien sûr les supporters. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est dans un système,
et le repreneur
dans un football,
qui va aimer le foot, qui va aimer la ville, le club est tout terminé.
Ça n'existe plus.
Tu vas pas avoir un supporter de Bordeaux plein d'oseille qui va venir, qui va dire moi je prends Bordeaux.
Mais même les vignobles bordelais sont rachetés par des puissances ou par des grandes entreprises étrangères.
Non, mais c'est parce qu'ils sont amoureux du vin, ça t'inquiète pas. Voilà. C'est pas pour gagner de l'argent.
Ils sont amoureux du vin et ils veulent gagner de l'argent. Voilà. Donc il y a un moment, malheureusement, cette mondialisation du football, elle touche aussi les clubs comme Bordeaux, les plus grands, les plus petits, et le supporter est un peu pris entre les deux. C'est compliqué.
On va conclure, les gars, en accueillant Axel, qui est supporter des Girondins lui aussi, tout comme Florian Brunet, qui, je le rappelle, est avec nous, qui est porte-parole des Ultramarines. Salut Axel.
Bonsoir Axel.
Bonsoir tout le monde.
Salut Axel. Bon Axel, on va pas refaire la situation maintenant, on l'a bien compris. Quel message est-ce que tu veux faire passer, toi ?
Mais moi, alors déjà, je tiens à remercier tous les UB, c'est le garde du temple, on va dire ça comme ça. J'ai une question qui quand même m'interpelle. Vous dites que le club est en déficit depuis de 40-50 millions, mais comment ça se fait qu'à la DNCG, c'est passé à l'as, quoi ? Je comprends pas.
Bah attends, voir si Florian, t'as une réponse à ça ?
Ah, il regarde sur du court terme. Hein. La DNCG, tu passes tous les 6 mois. Hein.
Non, mais la DNCG, quand ils sont passés au moment de la reprise du club, il y avait pas de problème.
Et c'est pour ça que
dans le prochain contrôle, ils flippent, et c'est pour ça qu'ils veulent récupérer de l'oseille et qu'ils sont inquiets des 50 millions de trous qu'il y a dans les caisses.
Non, mais il y a quand même un mystère.
Et c'est pour ça qu'en Mercato,
Bordeaux a vendu
pour partir Camano.
Je me trompe pas, Florian, si je dis que Bordeaux a vendu pour environ 30 millions.
Ouais, avec une explosion de sa masse salariale, cependant.
Explosion de la masse salariale, ça a cassé.
Mais comment tu peux vendre pour 30 millions, te retrouver avec plus 30 et à moins 50 ça, avec que de la masse salariale?
Ça, le problème, elle est pas à zéro. Ils ont mal géré, ça a été la catastrophe, elle est venue de là.
Ouais, plus un déficit en effet.
Et là, ils vont devoir vendre.
Les chiffres, j'ai envie de rester prudent quand même. Est-ce qu'on les a, les vrais chiffres?
Le trou, il est sûr.
Tu as raison, Pierre, sur les chiffres.
Donc là, cet hiver qui part? Donc, Camano, Pablo. Il y a un troisième joueur, mais il y a à peu près 3-4 joueurs qui vont partir sûr.
Qui a une grosse valeur, Axel, qui a une grosse valeur marchande?
Mais c'est les salaires. Les salaires.
Camano, ouais, Kalou. Mmh. On parle de Kalou aussi. Donc, ouais.
Pablo qui Pablo, s'en va, ouais. En plus pour raison familiale, et en plus il veut partir, donc voilà. Ils vont être obligés d'alléger leur équipe et Paulo Sousa pour donner un plus beau visage à l'emballage, si vente il doit y avoir, va être
De Préville, je pense, à une certaine valeur.
Va avoir pour mission de laisser le club dans le haut du classement pour que ça intéresse des mecs. Si ça intéresse des mecs, et le pire qui pourrait arriver, Florian, évidemment, et on pourra pas le blâmer, si à la fin de la saison y a une proposition qui est faite à Paulo Sousa, il va s'en aller. Qu'est-ce qu'il va entraîner Bordeaux? Pourquoi faire s'il y a rien, s'il y a pas de projet? Évidemment qu'il partira. Évidemment qu'il s'en ira. Qu'est-ce qu'il va rester?
Bon, pour l'instant, il reste évidemment diplomate.
Mais on n'est pas là, mais en même temps.
Florian, Florian Brunet, un dernier mot ou tu as fait le tour des messages à.
Non, j'ai réussi à faire le tour. Mais pour l'instant, l'urgence pour nous, c'est de sauver la tribune populaire, de sauver son moyen d'expression. Ça, c'est la plus grande urgence.
Oui, et en creux, de sauver le club. Enfin, c'est pas vous qui allez le faire, c'est pas vous qui allez mettre les sous.
On interpelle tous les amoureux. Il faut que ce club ait des propriétaires sérieux, il faut que ce club retrouve le haut du classement. C'est dans l'intérêt de tous.
Ah bah déjà, il faut qu'il retrouve un repreneur avant le haut du classement.
Et tu crois que si Duga et Baptiste ils mettent toutes leurs thunes, tu penses que ça suffit?
Ça dépend. Si King Street le vend à 10 balles, ils peuvent l'acheter. C'est ce que je te dis. Tout le monde peut l'acheter, même Florian Brunet peut l'acheter s'il est pas cher, s'il a les moyens d'acheter. Après le club,
tu vas racheter avec.
Après le club, si les comptes, après le club, tu le gères avec les droits télé, avec la billetterie, et puis tu redémarres avec un tout petit budget.
Si c'était aussi simple, je pense qu'il resterait.
Florian, merci en tout cas.
Merci à vous.
Et bon, on suit le dossier, évidemment, de très près, donc on aura l'occasion d'y revenir à très vite. Merci Florian Brunet, porte-parole des Ultramarines. Axel, merci à toi également.
Merci beaucoup. Et allez Bordeaux.
Salut Axel. Bonne soirée. Le prochain match de Bordeaux, c'est contre Nîmes et Marseille. Pour les Bordeaux. Ils sont pas mal, sportivement, c'est vrai.
Bah oui.
On n'a pas du tout parlé de leur match de ce week-end. Mais Bordeaux est là, juste au pied du podium. Atlético Madrid Barça, le point tout de suite, Aurélien Tirsa.
Les 24 dernières minutes, toujours 0-0. Le Barça qui commence à pousser un petit peu, mais c'est un concours de lancer de briques côté de l'Atlético Madrid. On reste devant la surface de réparation et on balance en espérant que Morata ou João Félix, le Portugais, ne fasse un exploit. Le Portugais qui vient d'ailleurs de sortir à l'instant, il a fait un match très moyen. Le joueur a acheté 120 millions d'euros au Benfica Lisbonne. Il a été remplacé par Vitolo. Pour l'instant, ça ne donne rien. Toujours pas d'occasion ni pour Griezmann ni pour Messi. 23 minutes encore à jouer, 0-0.
Il a du mal, Jean-Félix.
C'est pas terrible.
Il a du mal. On vient de parler des problèmes de Bordeaux et du foot business. Voilà, j'ai rien à ajouter.
Et le futur Ballon d'Or, là, il est bon.
Correspondait le mieux.
Non, c'est pas l'équipe. C'est
le Ballon d'Or de demain soir.
Le numéro 10 barcelonais?
Bah oui, parce que
il est moyen, il a pas zéro ballon échangé avec Antoine Griezmann, donc on reste sur la moyenne habituelle. Et il a quand même tenté une belle frappe qui a été contrée par le défenseur de l'Atlético Hermoso quasiment sur sa ligne. Le gardien paraissait battu, mais à part ça, très peu de choses à se mettre sous la dent pour l'argent.
De toute façon, le vrai Ballon d'Or est la numéro 4 et puis il joue à Liverpool, alors le reste, pas trop grave.
Mais je crois
qu'il va être deuxième.
Ça se finira pas comme ça, malheureusement.
Peu importe.
Je crois qu'il va être deuxième ton.
Il emmènerait son ballon.
Toi, tu mettrais Van Dijk avant Salah et Mané.
Ah, oui, Van Dijk, le meilleur défenseur
avant Salah,
du monde.
Sûr. Van Dijk et Sadio Mané, pour moi, ça se joue entre les deux.
Oui, ça se joue sûrement entre les deux, mais pour moi, le meilleur défenseur du monde qui a fait une énorme saison avec son club, avec sa sélection, peu importe s'il avait été néerlandais ou autre, pour moi, Sergio Ramos aurait dû l'avoir aussi.
Ça
ne
finisse pas comme ça, mon Kevin.
Non, mais peu importe. Maintenant, moi, il y a le ballon d'or, enfin, cette chose qu'on appelle le ballon d'or, et puis il y a le vrai meilleur joueur de l'année, et puis. Chacun se fera son opinion, en tout cas c'est la mienne et je pense qu'elle est partagée par
je te rejoins aussi mais...
après aujourd'hui de toute façon il y a le Ballon d'Or et puis il y a le meilleur attaquant le meilleur attaquant du monde en fait.
Oui.
En fait le Ballon d'Or c'est plus le Ballon d'Or, c'est le meilleur attaquant du monde. Mais bon, pas le meilleur joueur forcément.
On détaillera demain.
Le meilleur dribbleur
pour
celui
les nouvelles générations de toute façon un
et puis surtout celui dont on voit le plus de compil à la télé. et puis surtout celui dont on voit le plus de compiles à la télé dans le monde entier.
Aussi. Voilà. Sur YouTube aussi.
Ah oui, ça compte.
Ça compte.
Bon, même si ça reste un joueur extraordinaire.
Mais alors Beckenbauer, ah, aujourd'hui, il n'aurait jamais été Ballon d'Or ici, hein, dans ce football de 2020, depuis le 2010. Quoi. Beckenbauer, ça n'existait pas. Tous ceux qui ne marquaient pas de but, sans parler des gardiens ou des défenseurs.
Bon, ça va, t'as eu Cruyff.
Oui, mais bon.
T'as eu ton Cruyff chéri.
Non, et encore non. Moi, j'ai eu Figo, j'ai eu Zidane. Il n'y avait pas de souci. Je ne suis même pas sûr que Zidane, aujourd'hui, pour les jeunes de maintenant, il n'aurait pas Ballon d'Or. Ah bah non, tu sais, il marque pas beaucoup de buts.
Je vous coupe, messieurs, mais il y a eu une action là de Messi qui part en contre avec Griezmann seul sur la droite. Alors, il y a Suarez qui est seul aussi sur la gauche. Remarque, il lui donne pas plus, mais il doit le décaler. Non,
mais c'est pas grave,
il le décale jamais. Quoi.
Pour les jeunes, ce qui compte, c'est juste le football individuel. Donc.
Non, mais je veux dire, il y a un vrai souci quand même.
Dans quelques instants, on est de retour et on va partir, messieurs, dames, en Italie. Oui, c'est passé plein de trucs, notamment la Juve n'a pas gagné, ce qui en soi est un événement. Simone Rovira va nous raconter dans quelques instants, bien sûr. L'after revient tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois.
Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là. Pierre Ducrot est là. Et le match Atlético-Barça continue. Aurélien Tirsa, où en est-on ?
Les 16 dernières minutes, toujours 0-0. Il y a un petit peu le feu dans la défense du Barça avec un centre de Correa, une talonnade dans la surface de réparation. C'est dévié par un défenseur. Ça rebondit sur Marc-André Ter Stegen, le gardien allemand, qui a été gigantesque depuis le début de cette partie. Il a notamment fait deux énormes parades en première période, toujours 0-0. Il y a eu quelques changements. La rentrée de Vidal, l'Arturo Vidal à la place du Brésilien Arthur, côté Barça et côté Atlético. La rentrée du Français Thomas Lemar à la place d'Angel Correa, à la place de l'Argentin. Pour l'instant, Lemar qui n'a pas encore touché le ballon. Le Barça à l'attaque avec un Griezmann toujours aussi discret. Le dernier quart d'heure, toujours 0-0 dans ce choc de la Liga espagnole.
Pas mal de réactions suite à notre débat bordelais, puis on a un peu élargi à la question des investisseurs dans le foot français, évidemment. Et puis, comme on a légèrement parlé du Ballon d'Or, ça y est, ça s'enflamme dans tous les sens sur le Ballon d'Or. Tiens, je vous livre quelques messages. MK23 qui me dit, entre l'individualisation du foot et ses dirigeants désintéressés, le foot perd totalement ses valeurs.
Merci.
Il va falloir à un moment prendre en compte l'humain, comme le disait le supporter bordelais, nous dit MK23.
Ballon d'Or existe depuis 50 ans, quoi. Donc c'est pas nouveau, le Ballon d'Or.
Hein. Avant, c'était mieux.
Ouais.
Ah, ouais.
Ouais, tu veux dire qu'on avait une fois tous les 15 ans un gardien? Ou un défenseur.
Non, gardien, on n'en avait pas tous les 15 ans, et défenseur, c'était pareil. On n'en avait pas
non plus. Ouais, très rare.
On avait très rarement.
Ouais, très rarement.
Voilà. Il y en avait un qui était bon, il l'avait.
Donc, évidemment, là, j'ai les Sénégalais qui se réveillent.
On a trop peu.
Qui me disent, comme par exemple Ibrahim, qui me dit, arrête de faire le footique Gilbert, Mané est mille fois au-dessus de Salah. Donc, ça, évidemment, on est moins écoutés en Égypte qu'au Sénégal. Question de langue.
Je suis désolé, sur cette saison, Sadio Mané, il n'y a pas beaucoup de débat, quoi. Sadio Mané.
Oui, à la limite, sur la saison précédente.
Ouais, cette année, il fait la saison avec Liverpool, il est extraordinaire, important dans tous les matchs. Il a en plus, il double avec la CAN où il va quand même en finale. Qu'est-ce qu'il doit faire de...
Mané Ballon d'Or, ce serait une logique implacable.
Mais le pire, c'est que
un gars de Liverpool. Les trois sur le podium et dans l'ordre que vous voulez.
Ce qui est terrible, c'est que si Sadio Mané gagne la CAN, mais je pense pas qu'il l'ait non plus, Ballon d'Or.
C'est ça qui est terrible.
Je pense qu'il l'aurait pas eu non plus.
Non, ça joue sur d'autres choses.
Donc le mec, il gagne la Ligue des Champions. Il va en finale de la CAN, il n'a pas le Ballon d'Or.
Mais non, mais on le sait, on sait pourquoi. Non,
c'est bon. Et après,
on en a parlé tout à l'heure.
Après, ceux qui nous écrivaient tout, il faut n'oublier jamais un truc quand même.
Nous, on
le Ballon d'Or, les votants, c'est dans le monde entier. Hein. C'est pas la France.
Exactement.
C'est pas que la France. On verra ce qu'aura mis
Mais c'est votant. Pas que l'Europe.
C'est pas que l'Europe non plus.
Voilà.
On verra ce qu'aura dit le votant français. Mais il faudra regarder toutes les fédérations. J'imagine que la plupart des votants des fédérations africaines, parce qu'après il faut aussi dire que il y a beaucoup de chauvinisme dans les votes. Moi, je m'amuse à regarder chaque année.
Alors figure-toi que justement,
Afrique, machin,
que on verra demain, mais de moins en moins, Daniel.
Bah tant mieux. Si les gens sont plus lucides que chauvins, c'est toujours mieux.
Ouais, enfin, sauf que là, ça se retourne contre Mané. Là,
si en Afrique la majorité dit sur Mané, je suis d'accord avec eux. Ils ont raison. Parce que là, c'est juste.
Tu vas voir que demain. Messi risque d'arriver en tête des votes des Africains, malgré tout.
Parce que
tu veux faire. Il y a beaucoup d'Africains.
Je suis sûr, en Afrique du Nord, ils votent tous Messi et pas Sadio Mané.
Par exemple.
Alors là, je suis prêt à parier.
Ou alors ils votent Salah éventuellement.
Ouais, mais ça va aller sur. Voilà, il faut vous dire aussi, vraiment, c'est un vote mondial. Et les tendances de foot, le foot n'est pas vu partout de la même façon.
Malheureusement, ça va être comme beaucoup de choses. On va être obligé, entre guillemets, bon. pas nous parce que ça reste notre métier, mais on va être obligé de effectivement de se désintéresser de ce trophée là parce que
Moi ça fait longtemps.
Hein. Oui on est pas obligé.
Non mais je veux dire de plus en plus parce qu'aujourd'hui ça ressemble plus à grand chose quoi.
Et puis elle magnifique conclut le débat.
Ça ressemble quand même Messi est quand même un joueur hors norme.
Non, mais attention, moi j'ai bien aimé
évidemment.
Moi ça m'emmerde.
Le Ballon d'Or ça récompense quoi, le meilleur joueur de l'année? Mais ça récompense pas le meilleur joueur du monde de tout le temps.
C'est le meilleur joueur. Oui, mais le problème, c'est que meilleur joueur d'année. Moi, j'ai parlé avec des gens qui ont un avis là-dessus. Ils me disaient, ouais, mais quand tu vois ce qu'il a fait cette année, le nombre de buts marqués, il le mérite. Alors là, moi, je suis interloqué. J'ai dit, ok, donc c'est exactement la déviance du foot de notre époque.
On est d'accord.
Tout est statistique.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
C'est une affaire de statistiques. Ouais. Si tu regardes les chiffres, mais, et le défenseur, Messi fait une saison énorme.
Et le défenseur qui se fait pas dribbler sur une saison entière, c'est pas bien.
Kevin, tu parles.
Je répondrai à ton ami.
Ça se remarque.
Le défenseur qui, sur une saison, se fait pas dribbler dans le meilleur championnat du monde. Mais élu le meilleur joueur du championnat.
La plupart des gens le remarquent moins. C'est triste, mais c'est
moi, pour moi, c'est Sadio Mané ou Van Dijk. C'est l'un des deux, quoi. Voilà.
Avec troisième, pour moi, Salah.
Aussi.
Et j'ai dit ça, et c'était Messi, dans la
Ronaldo
peur. Oh là là, mais tu mets pas Messi sur le podium, tu respectes pas le football.
Attends, regarde, pourquoi,
c'est vous qui respectez
pourquoi
pas le
je
football.
Pense que le classement.
Parce que le football, c'est un sport collectif, c'est pas du tennis,
Kevin,
les gars.
Le classement.
Le football, c'est avec et sans le ballon.
Kevin, le classement on va certainement mettre 3, 4, 5. Peut-être Mbappé 6e. Il a fait quoi, Mbappé, cette année?
Pour mériter. Il a vendu des maillots.
Pourquoi il est là? C'est simplement les stats. Le nombre de buts qu'il a mis sur une année. Voilà, on va pas se soucier de savoir contre qui, dans quel championnat, qu'est-ce que t'as fait en Coupe d'Europe. Avant, moi j'avais le sentiment, mais peut-être je me trompe, que c'était pas comme ça. Qu'on regardait ce que t'avais fait dans ton équipe, ce que t'avais fait dans tes compétences. Sadio Mané, s'il est pas Ballon d'Or, c'est parce qu'il a mis, en plus il en a mis une tonne de buts, hein, mais pas autant que Messi. Et en fait, on regarde pas qu'il a gagné la Ligue des Champions, qu'il a fait finale de la CAN.
Non, mais on regarde.
Si
c'est
Messi,
pas ça, Daniel.
Si Messi est élu et il va être élu demain, c'est sur quoi d'autre que des stats? Mais c'est sur des stats.
Daniel,
aujourd'hui, le foot est vu par le biais des stats.
Mais c'est pire que ça.
Les scores. C'est pire.
On conclut.
Bat là-dessus toute l'année.
Mais c'est pire que ça, Daniel. Sadio Mané, il marque des buts. Et Sadio Mané, quand il perd le ballon, il fait un sprint de 40 mètres pour
bien
aller
sûr,
défendre.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, les footballeurs, les jeunes footballeurs et leurs parents qui sont complètement rivés sur le Ballon d'Or, un peu comme Mbappé d'ailleurs, et leurs parents, leur entourage, ils voient que par « Ouais, mais Messi, il a mis 55 buts. Mais Messi, quand il perd le ballon, il marche !» Ah ouais, mais c'est un génie. Oui, c'est peut-être le meilleur footballeur du monde. Mais sur cette année, je suis désolé, Sadio Mané, il a apporté plus à son équipe, qui a renversé l'équipe de votre Messi, que le meilleur joueur du monde, qui pour moi, intrinsèquement, est le meilleur joueur du monde et le sera peut-être pour 2-3 ans.
Le mot de la fin pour Elle Magnifique.
C'est collectif, c'est avec et sans le ballon.
Sur le hashtag RMC Live.
Il y a pas mal de jeunes de le savoir.
Elle Magnifique nous dit, totalement d'accord avec Kevin, aujourd'hui le Ballon d'Or, de toute façon, c'est le gars qui a la meilleure note dans FIFA. Donc, en l'occurrence, c'est qui?
Messi.
Voilà.
C'est vrai. Mais en plus, les gens, quand ils nomment Gilbert, juste pour finir, les gens te disent, oh, mais le mec, il aime pas Messi. Mais qui est-ce qui a dit qu'on aimait pas Messi? Je viens de dire que c'est le meilleur joueur du monde. Ça l'a sûrement été dans la des 10 dernières. Et ce le sera peut-être dans la des 3 prochaines.
Et puis, la 10 nous dit,
c'est
bon.
C'est pour ça que sur une année, dans ce c'est cas, celui qui mérite le Ballon d'Or.
Dans ce cas, arrêtons les titres individuels dans les sports co. Je suis d'accord. Arrêtons les titres individuels dans les sports co.
Je veux pas qu'on l'arrête, le Ballon d'Or.
Simone Rovera.
Je
veux qu'on le donne comme il faut.
Simone, bonsoir.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Salut, Simone.
Même pas un Italien dans les 10 premiers Ballons d'Or.
Il y aura beaucoup de déceptions.
L'année prochaine, il y en aura après l'Euro.
Ah, un petit pari.
Non,
beaucoup de déceptions chez Cristiano, il a dit.
Ah bah oui, oui, bien sûr.
Ah bah non, mais la Cristiano,
je sais qu'il est pas italien, par contre, fais gaffe.
Cela dit, il a mis l'un des plus beaux buts de l'histoire du foot cette année, quand même, Cristiano. Ça, on peut pas le retour d'acrobatique.
C'est pas cette année, c'est l'année dernière.
C'est sur l'année civile là, c'est sur 2010.
Le retourné contre le Real.
Le retourné, c'est quoi la date?
C'était il y a deux ans.
C'était en 2018. Bah oui. Ouais,
c'est
Real.
Là,
il vient de finir.
Non, mais Daniel, je suis pas bête. C'était pas entre janvier et juin?
Mais
2019. De 2018. 2019.
C'était non, il est dans la fin de la saison 2017-2018.
Je retrouvais la date exacte.
Mais c'était 2018,
Cette année, on est en 2019.
Il a déjà fait un an et demi presque. Là,
non, parce qu'il a quand même mis l'un des plus beaux buts de l'histoire du football. quelle que soit la date.
Et il a mis
un Ballon d'Or.
Il a fait un festival contre l'Atlético dans un match retour de Ligue des Champions.
Exactement. Simone, la Juve n'a pas gagné, c'est un événement. C'était cet après-midi.
Et contre Sassuolo.
Même ce midi.
Il y a plusieurs événements parce que la Juve n'a pas gagné, l'Inter a gagné et donc ce soir on a un nouveau leader en Serie A. Ça c'est déjà très très important. Et si on fait on regarde les choses un pas après l'autre, la Juve aujourd'hui a fait un match probablement un des pires de la saison. C'était vraiment une Juve qui, comme d'habitude, souvent cette année joue à deux vitesses, un peu plus vite en Ligue des Champions. Ça va très 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 loin. Ça va pas très très vite en championnat. Quelques résultats pour vous dire, parce que l'histoire c'est très simple. Maurizio Sarri était arrivé pour changer aussi, pas seulement une dimension de la Juve qui gagnait tout le temps, mais que ne excitait pas les supporters, même les propriétaires, même la famille Agnelli. Et aujourd'hui, cette année, pour ce début de saison, la Juve a gagné à domicile 2-1 face au Bologna, 2-1 face au Genoa, il a fait 2-2 face à Sassuolo, après il a gagné 2-1 face au Verona, 2-0 face à la Spal qui est toute dernière du championnat. Donc c'est une équipe qui n'arrive pas à régaler avec les jeux. Il a fait sur certaines phases en Ligue des Champions, même certaines, la première demi-heure, je pense, face à l'Atletico, Kevin était au commentaire, mais on a vu de belles choses, de belles phases de possession, de la rapidité avec une Pjanic, Dybala très en jambes. Mais en championnat, la Juve gagne tout le temps, ou presque, mais c'est jamais très séduisant. Donc aujourd'hui, sur un match qui, à la Juve, n'a pas bien joué, ou en plus, il y a eu un but catastrophique de Sassuolo avec trois erreurs individuelles une après l'autre, celui des Cuadrado, la relance de Delict et la cagade des Buffon. Quand tu joues mal et quand en plus tu t'es marqué des buts toute seule, ça devient plus difficile. Donc aujourd'hui la Juve ne méritait pas de gagner, elle n'a pas gagné. C'est déjà arrivé plusieurs fois cette saison que la Juve ne méritait pas vraiment de gagner. Elle avait gagné, je pense, face au Genoa, je pense
l'Atalanta.
Aussi face à Bologna, face à l'Atalanta la semaine dernière, bien sûr, où en 15 minutes, la Juve est arrivée à renverser un score et une domination de l'Atalanta pour 75 minutes. Un jour ou l'autre, même avoir l'effectif plus riche, plus beau, plus séduisant et plus fort de la Serie A ne suffit pas. Et ces jours-là est arrivé aujourd'hui.
Et est-ce que Simone, bon, on était ensemble, donc comme tu l'as dit, d'ailleurs, merci parce que tu nous as bien guidés dans cette jolie ville de Turin.
Ouais, il paraît que tu t'es bien occupé de Kevin, hein, tu sais qu'il a kiffé. Hein.
Ouais, c'était vraiment pas mal.
La ville est pas mal, hein.
C'était très bien. On a passé une bonne soirée. Et c'est vrai que moi j'étais très impressionné par ce club de la Juve parce que le voir en vrai, voir voilà tout le sérieux, tout, même l'ambiance, même cet hymne avant le match, c'est vraiment impressionnant de voir tout ça. Et par contre dans le jeu, ça avait été quand même
but de Messi là.
Et voilà, ça avait été quand même très très bon.
Et Aurélien, le but du Ballon d'Or de demain.
Très joli but de Lionel Messi à 5 minutes de la fin du match. Il avait pourtant l'option Griezmann juste devant lui. Il a préféré s'appuyer sur Suarez et il a enchaîné une frappe enroulée. Oh, une classique du côté Messi à l'entrée de la surface.
Pendant 4 heures, c'est vrai, ouf,
parce qu'il enroulé peut donner, mais en fait, poteau. Il veut y aller seul et il finit, il marque et c'est extraordinaire ce qu'il a fait.
Aurélien, vas-y.
Et donc ça fait 1-0 pour le Barça à la 86e minute. Un match où l'Atlético défendait parfaitement. Mais voilà, il a fallu ce petit éclair de Lionel Messi qui garde beaucoup le ballon effectivement dans cette partie, mais là-dessus il a voulu la jouer perso, il a enroulé parfaitement au ras du poteau et ça sera probablement encore lui le sauveur du Barça.
Bon, oui, on voit l'action là au ralenti, donc effectivement, bon, en même temps là franchement c'est un peu chipoté lui dire qu'il faut qu'il aide à la Griezmann.
Bah, il a quand même l'espace complètement ouvert pour le français.
Mais il est hors jeu Griezmann, je pense.
Non, avant quand il
avait le jeu avant, oui, bien sûr. Mais après, de toute façon, il se fait tellement
confiance. Avant le 1-2.
Ah, puis quand ça finit comme ça, tu peux rien dire.
Ah non, mais de toute façon, c'est magnifique l'action, comment il s'appuie sur Suarez.
Et il a démonté votre quart d'heure anti-Messi là en 2 secondes.
Anti-Messi, non, moi, j'adore ce joueur. Moi, donc, c'est Messi pour
regarde,
moi, c'est
regarde,
c'est
le ballon d'or. Regarde, qui est capable d'enrouler comme ça là? Qui est capable d'être décisif à la 86e dans un des matchs à enjeu de la Liga? Qui?
Simone, bouge pas, on va parler de l'Inter dans quelques instants avec toi. On revient très vite dans l'after.
C'est pareil parce que depuis 10 minutes, elle a une tripotée de tocards sur Twitter. Ouais, Atlético Barça, quand les mecs ils chialent sur le niveau de la Ligue 1, ils voient pas qu'ils s'ennuient, alors que c'est de la connerie, parce que même s'il y avait 0-0, tu voyais des gestes techniques sans arrêt, et des choses intéressantes. Et
là, le Barça, ça rigole pas.
Avec le but de Messi et ce qui vient de se passer, là, j'espère que tous ces tocards l'ont pris dans la tronche.
Bon, sur ces bonnes paroles, petite pause.
Match pour en
à tout de suite dans l'after.
RMC, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Kevin Diaz est là, Pierre Ducrot est là, Daniel Riolo est là, l'after jusqu'à minuit, un point sur Atlético Barça avant de retourner voir Simonet. Aurélien Tirsa, où en est-on?
On a dépassé le temps additionnel depuis 40 secondes, 3 minutes en tout, donc il reste 2 minutes à jouer, toujours un but à 0 pour le Barça, le but de Lionel Messi à la 86e, et à noter l'entrée en jeu de Samuel Umtiti à la place de Gérard Piqué qui s'est blessé au genou, donc c'est peut-être une chance pour le Français de se relancer un petit peu. Et si la victoire du Barça se confirme, c'est très important car le Barça prendrait la tête de la Liga devant le Real Madrid grâce à une meilleure différence de but.
Merci, tu nous confirmes le score dans quelques instants. Simonet, pendant ce temps-là, l'Inter gagne et l'Inter prend la tête.
Oui, aujourd'hui. Oui, dans cet imbla aussi, troisième but de la Roma, parce qu'il y a Atlético Barça.
Ah oui, ce soir. Ouais.
Verona Roma, et la Roma, avec cette victoire, est quatrième du classement, donc derrière Inter et Juve. Et là-dessus, donc, serait un beau moment pour les deux équipes de Rome qui se retrouvent dans des places européennes très importantes. L'Inter fait quelque chose du jamais vu, d'extraordinaire dans son histoire, parce qu'imaginez que 12 victoires sous les premières 14 matchs de championnat, c'est la première fois que l'Inter arrive à faire ça dans son histoire. Et ça arrive à faire ça avec Antonio Conte, qui, comme on a déjà dit plusieurs fois, c'est le symbole de la renaissance de la Juve au début de cet cycle incroyable des 8 victoires. Et aujourd'hui, ça devient le symbole de anti-Juve, on peut dire, parce que c'est le seul entraîneur qui vraiment, on dirait, puisse faire perdre ses titres à la Juve. Il y a les deux hommes clés de l'Inter. Aujourd'hui, c'est encore une fois Lautaro Martinez, avec Lukaku qui n'a pas marqué, mais fait un match généreux, extraordinaire, et qui ouvre des espaces pour son coéquipier, comme probablement on n'a jamais vu. Lautaro, aujourd'hui, même à niveau des finisseurs, pour moi, c'est celui qui a vraiment remplacé Icardi à l'Inter, avec Lukaku qui travaille pour lui. Mais l'homme central de cet Inter, c'est Lautaro. Et au-delà de chiffres...
Tu crois que ça va être le gros transfert de l'été prochain, lui?
L'Inter, là aussi, il a une clause, mais toujours des clauses, ses attaquants. Pour Icardi, on se rappelle, c'était 110 millions. C'était la même chiffre pour Lautaro. Il a les mêmes principes, c'est valable entre les 1er et les 15 des juillet, si je ne me trompe pas, que pour le club étranger. Donc, ça devrait être la même chose que pour Icardi.
110 millions, 110 millions, vu comme il cartonne et tout, c'est presque pas cher. Hein.
Aujourd'hui... Il y a une chose que, pour moi, c'est extraordinaire de Lautaro. Les buts, bon, 13 buts en 19 matchs, c'est déjà très bon. 4 matchs consécutifs en Ligue des Champions où il marque, c'est très bon. 10 fois sur 13, il a marqué dans les premières 30 minutes, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, généralement, décide beaucoup les débuts du match. Mais surtout, il a marqué 9 fois cette saison le but du 1-0, l'ouverture du score. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, quand même, marque des buts importants pour son équipe. C'est pas l'attaquant qui tu les vois pas pour 49 minutes et sur les 2-0 tu mets les 3e et les 4e buts. Il est toujours l'homme qui ouvre les scores face au Barça, face au Dortmund, même aujourd'hui, mais dans les autres petits matchs. Mais c'est un homme décisif au-delà d'être efficace. Il marque des buts importants et lourds.
Bon, du coup, toi, tu dis quoi? Là, 1er décembre, tu vois plutôt la Juve ou l'Inter championne?
Je vois la Juve. La Juve a un effectif beaucoup plus riche, plus fort. La Juve a...
Moi, je prendrais le risque de dire l'Inter, le titre pour l'Inter cette année, moi.
Simonet, moi, la Juve n'est pas au niveau. Si la Juve ne se présente pas au niveau comme elle doit être, oui, mais attendez, l'Inter est en train de faire quelque chose d'extraordinaire.
Moi, Simonet, en parlant d'extraordinaire...
Oui, Kevin.
En parlant d'extraordinaire, j'ai bien regardé le résumé de Inter face à cette semaine en Ligue des Champions face à Prague, et j'avais vraiment l'impression, au vu des réactions du banc de touche, mais que ce soit des remplaçants ou des adjoints et de Conte, que ce groupe il a l'air vraiment de bien vivre. Il y a vraiment de l'énergie positive et franchement, ça m'a vraiment dégagé l'esprit d'un collectif très fort. Là, c'est...
Mais Conte, là, ses côtés, je dirais presque à la Mourinho, où depuis le début de la saison, il dit que tout le monde est contre l'Inter. Il y a quelques semaines, je suis allé faire une question en conférence de presse. J'ai dit, Lautaro, c'est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Toi, tu as joué avec beaucoup de champions, tu as entraîné beaucoup de grands joueurs. Il te souvient. Ça te rappelle qui? Il me dit non, on fait pas ces discours parce que je sais déjà que si on fait ça pour exalter Lautaro, c'est parce que demain vous allez les descendre. Je dis non, c'était pas pour ça. Non, je fais pas de comparaison, mais il était un peu vénère. C'est-à-dire, il voit toujours, ou il cherche toujours la petite note négative, même dans les questions, dans la presse. Il y a toujours un peu cette théorie, vous êtes tous contre l'Inter, nous on est déjà en train de faire le maximum total. Donc, venez pas nous donner des crédits parce que c'est trop tôt.
C'est la méthode de Jean-Michel Aulas.
Ouais, c'est désuète, Mourinho. Hein. C'est Jean-Michel Aulas maintenant qu'il faut dire.
Il veut resserrer les rangs.
Et sinon, le point, je sais que ces derniers temps, on en a pas mal parlé, mais rarement quand j'étais là. Encore une défaite pour Naples.
Oui, non, ça, il faut
je sais même plus
que...
si on peut parler de crise et où ça va finir. Il y a des joueurs qui vont partir à Noël. Qu'est-ce qui peut se passer parce que là, la saison, elle est foutue.
Pour moi, c'est foutu la saison prochaine. Parce qu'aujourd'hui, des joueurs qui n'ont aucune envie de jouer à un certain niveau en championnat, il y a des mots d'Ancelotti qui, pour moi, sont gravissimes ce soir contre les joueurs, mais qui se jouent bien ou quand même dans les maximums en Ligue des Champions. Ça veut dire que cette année...
Mais c'est ça le paradoxe, c'est qu'en Ligue des Champions, ils vont finir devant Liverpool. Ils ont fait un gros match à Liverpool cette semaine. Et après, en championnat, à chaque fois, on dirait qu'ils font exprès, quoi.
Aujourd'hui, l'équipe la plus forte du monde, ou plus ou moins, c'est Liverpool. Et Naples est arrivé à les battre en match aller et à se bien défendre au match retour. Non, mais aujourd'hui, Ancelotti a dit deux, trois phrases qu'il faut les dire parce que déjà, elle dit on ne peut pas jouer au 100% un jour et au 30% l'autre. Il utilise des pourcentages très, très basses. En bref, il dit moi, je prends mes responsabilités, mais aussi les joueurs. Parce que moi, peut-être, je ne suis pas clair. Sur certaines choses, ils n'ont pas les idées claires parce que moi, je ne les donne pas bien. Mais après, c'est eux qui vont sur le terrain et c'est eux qui doivent tout donner. Et j'ai l'impression que parfois, on est loin d'être dans cette condition.
Mais lui, il a quel rapport avec les joueurs là, dans toute cette histoire, dans le conflit avec le président tout
aujourd'hui,
ça.
Aujourd'hui, quand il dit « demain, on va parler aux joueurs », j'ai eu l'impression que vraiment, il va se mettre devant ses joueurs demain et dire « soit vous êtes avec moi, soit vous n'êtes pas avec moi ». Parce que les joueurs, je pense aussi qu'ils se sentent un peu lâchés par Carlo, parce que Carlo, c'était le premier à dire c'est pas bien de faire la mise au vert punitive. Et après, c'est le seul qui allait à l'hôtel. Et il a apparemment pas pris des défenses très fortes devant la présidence de ses joueurs. Donc, j'ai l'impression aussi qu'il y a aussi un sort de conflit interne entre Ancelotti et ses joueurs, chose qui est très rare quand même. On l'avait déjà vu à Bayern dans certaines situations. Il a toujours les faveurs de ses joueurs. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'est pas ça. Pour vous dire, il a aussi dit cette phrase dans l'après-match. Si les joueurs ne m'aident pas à trouver des solutions, je vais les chercher toutes seules. C'est rare de voir Ancelotti qui parle comme ça de ses joueurs. Ouais. On sait très bien que la relation de Carlo avec ses joueurs. Et là, on a l'impression qu'il est vraiment de dire « Vous êtes avec moi, on continue. Si vous n'êtes pas avec moi, on verra. » Et j'ai aucune idée de quel va être l'avenir de Carlo après cette défaite. C'est sûr, il a un calendrier très simple jusqu'à la trêve, un championnat. Il aurait dû faire 15 points. Là, il commence à perdre des points très lourds.
Simone, merci pour cette photographie-là italienne. Évidemment, t'as une journée en semaine, là, toi aussi en Italie, ou il y a quoi cette semaine?
Non, il y a la Coupe d'Italie.
Ah, la célèbre Coupe d'Italie, avec ses matchs aller-retour.
Coupe d'Italie, un match élimination directe, et ça va être important pour Genoa, qui avait bien commencé avec Motta. Là, les choses vont mal, ils jouent face à un équipe.
Oui, j'ai vu que ça commençait à partir un peu en vrille, Motta.
Et c'est important pour Thiago Motta de faire un résultat au moins en Coupe d'Italie, parce qu'en championnat, les choses commencent à aller plutôt mal.
Merci Simone, bonne soirée. Dans quelques instants, on part en Angleterre, retrouver Julien Laurence. Ciao. Et puis on va avoir un quiz inédit, Daniel, ce soir.
Pourquoi?
Un quiz avec Pierre Ducrot et Kevin Diaz. Je crois que c'est la première fois.
Moi j'en ai fait qu'un.
T'as gagné?
Et Kev était pas là.
Non, j'en ai fait quelques-uns.
Non, c'était truqué ce soir-là, t'avais gagné, tu sais très bien, Jules.
Bah, il gagne toujours.
Mais les mecs, comme d'habitude, vous êtes tous les mêmes. Il n'y en a jamais un qui va dire oh, non, j'étais moins fort, je le reconnais. Il y a toujours un truc.
Ce soir-là, je trouve que c'est les arbitres. En plus.
Ouais, c'est les arbitres, t'as raison. A tout de suite dans l'After avec l'Angleterre en programme.
RMC, 21h30.
L'After Foot.
This podcast is brought to you in part by LifeProof, makers of action-ready phone cases designed to let you live full-time. Whether it's braving the surf or thriving in the dirt, LifeProof allows you to live full-time. LifeProof cases protect one of your most valuable tools, your phone. From the waterproof Free, the Agile Next, the Streamline Slam or the all-new Flip, LifeProof cases let you do what you do without hesitation. To start living full-time, go to lifeproof.co.uk/lifeproof15 and save 15% on your LifeProof case.